franceinter.fr.
À la une de la science, donc aujourd'hui, les conséquences sanitaires du réchauffement climatique. Un rapport publié hier par The Lancet souligne que les effets du réchauffement pour la santé humaine se font déjà sentir et pourraient même s'avérer catastrophiques à l'avenir. Pour en parler, nous sommes au téléphone avec Jean-François Guégan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRD et conseiller scientifique pour le programme Future Earth des Nations Unies. Et puis nous sommes avec Jean-François Toussaint. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du GAP, le groupe Adaptation et Prospective au Haut Conseil de Santé Publique. Jean-François Toussaint, ce rapport donc publié dans The Lancet souligne l'urgence de lutter contre la plus grande menace pour la santé publique mondiale. Les mots sont à prendre à la lettre, ils sont exagérés ou pas selon vous ?
Les mots, me semble-t-il, ne sont pas trop forts. Il y a réellement un risque qui peut être beaucoup plus important que celui que nous voyons venir actuellement. On a plusieurs aspects qui rentrent sur les grands facteurs de risque actuellement, mais très clairement, le dérèglement des conditions environnementales, dont le réchauffement climatique est l'un des symptômes, est actuellement une grande question pour la...
Oui. L'aspect sanitaire, c'est un domaine dont on parle un petit peu moins dans le cadre du réchauffement climatique, hein, pourtant.
Oui, absolument. Il a été très très peu abordé dans les conférences précédentes, que ce soit à Copenhague, à Lima ou même sur Paris, sur lequel on voit que de plus en plus ce point est très insistant et la tribune du Lancet va contribuer à mettre ce facteur. La France a elle aussi établi un certain nombre de rapports, un grand nombre de travaux ont été lancés et ça va être l'occasion de trouver, de comprendre ce que sont les mesures d'adaptation et d'atténuation qu'il nous faut prendre maintenant pour pouvoir éviter à l'avenir, d'ici une à deux générations, des conséquences qui risquent d'être lourdes, effectivement.
Et quelles sont les menaces concrètes qui pèsent sur la santé des humains aujourd'hui ?
Alors actuellement, celles que l'on voit, ce sont celles qui se sont manifestées, par exemple, dans les grandes vagues de chaleur, celles de 2003 en France, mais de 2010 en Russie, 2012 aux États-Unis, avec des effets qui sont globaux sur l'ensemble du vivant, mais aussi sur les populations les plus fragiles, les plus précaires ou les plus âgées. Et donc, en mêlant tous ces facteurs, on voit bien que le cocktail commence à ne plus être tout à fait favorable et il faut pouvoir analyser tous ces éléments les uns après les autres pour réduire le nombre de décès qu'on a pu voir, 15 000 décès supplémentaires en France en 2003, 35 000 en Europe. Sur l'ensemble de ces points, il faut intégrer les impacts qui vont jouer aussi de façon indirecte, par exemple, sur la production alimentaire.
Alors, Jean-François Guégan, justement, votre analyse de votre côté sur les principales menaces pour la santé humaine donc liées au réchauffement et les risques qui existent déjà ?
Alors, je pense qu'il faut absolument distinguer entre des événements courts dont vient de parler Jean-François Toussaint à l'instant, c'est-à-dire des événements extrêmes. Il a parlé des coups de chaleur et de leurs conséquences, notamment en France, et des événements longs. Qui peuvent se réaliser sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, pour lesquels on a beaucoup moins d'évidence scientifique. Mais n'empêche, il est important de les comprendre. Alors, ce que l'on remarque, c'est que on a de plus en plus de prolifération de bactéries ou de virus dans les ce qu'on appelle les systèmes côtiers maritimes, avec l'augmentation de la surface de l'eau, par exemple en Manche, hein. Et ces virus ou bactéries vont pouvoir affecter des coquillages dont vont s'alimenter les populations humaines et se retrouver dans la chaîne alimentaire et être responsables de cas de diarrhée qui sont en plus grand nombre aujourd'hui. Mmh. Donc l'augmentation de la température va dynamiser la reproduction du virus ou de la bactérie et donc provoquer ces conséquences sanitaires. Mais vous allez aussi avoir avec des changements climatiques, une augmentation de la température, vous pouvez aussi assister à une arrivée de vecteurs, de réservoirs, de pathologies qui seraient normalement d'origine plus au sud et notamment de régions tropicales. Ce que vient de dire Jean-François Toussaint à l'instant, c'est que avec le changement climatique, vous avez aussi d'autres phénomènes qui interviennent, ce peut être des modifications d'écosystèmes, le phénomène de globalisation avec des transports internationaux qui peuvent aussi être responsables et transporter des bactéries. Hein. Je prends l'exemple de bateaux containers qui, dans leur ballast, peuvent contenir des bactéries d'origine tropicale et les déverser, lorsque nettoyant leur ballast, les déverser dans un port ici. Si les conditions sont tout à fait propices à leur prolifération, eh bien ces bactéries ou ces virus proliféreront dans l'eau, par exemple.
On sait réellement prédire la propagation des maladies et de leurs vecteurs correctement aujourd'hui ?
Alors, il y a énormément de travaux qui sont faits, qui sont des scénarios un peu à l'image de ce que produisent les physiciens du climat pour le GIEC. On a deux types de recherches. Ce que l'on essaie de comprendre, c'est la distribution spatiale d'un certain nombre d'agents pathogènes, ce peut être le paludisme, ce peut être la dengue par exemple, cartographier ces cas et de voir si l'augmentation de leur aire de distribution peut correspondre à des modifications climatiques. Tout le problème là réside dans le fait qu'il peut y avoir d'autres effets confondants que le changement climatique, ce peut être le transport par l'homme ou ses activités, ce peut être à travers l'élevage, pour un certain nombre de maladies transportées par des réservoirs dont l'homme se nourrit, des ruminants je pense par exemple. Et la deuxième chose est que cette distribution spatiale n'a pas de point zéro, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'état zéro dans lequel l'homme n'était pas intervenu encore sur le dérèglement climatique pour avoir et pour nous se permettre une comparaison. Ça, c'est la première approche qui est un héritage de la médecine et de la géographie. Puis un deuxième moyen d'étudier, c'est de l'étudier dans le long terme, sur 40 ans, 50 ans, à l'aide de séries, on parle de séries chronologiques de cas d'une maladie, et de croiser ces séries de cas avec des paramètres biométéorologiques ou des indicateurs du changement climatique, tel le fameux phénomène ENSO, qui est un élément du changement climatique. Et au travers d'analyses statistiques plus ou moins complexes, c'est de vérifier s'il y a bien un signal dans les épidémies, dans la fréquence des épidémies, c'est d'ailleurs ce qu'on observe pour un certain nombre de pathologies infectieuses, une augmentation des fréquences d'épidémies à cause du dérèglement climatique et ces fameux phénomènes El Niño, El Niña.
Jean-François Toussaint, pour terminer, les maladies chroniques également, il faut s'attendre à une augmentation sensible liée toujours à ce réchauffement ?
Oui, très clairement, on voit actuellement cette augmentation d'un risque principal qui est notre gain aussi de ces 100 dernières années, celui du vieillissement de la population, mais qui en même temps donne une vulnérabilité particulière autour de ces conditions. Les questions de stabilité économique, les questions de sédentarité, les questions de s'ajoutent, et la question de la dette climatique par rapport à tous ces changements, est-ce que le climat remonte plus vite vers le nord que nous ne pouvons nous y adapter, restera marquée pour nous comme pour les autres espèces, et on l'a vu avec des convergences de phénomènes, que ce soit pour Pintia en France ou Sandy aux États-Unis, dans lesquels on va avoir par ces événements extrêmes et associés à cela d'autres fonctions qui vont mettre ces nouvelles vulnérabilités en jeu, des risques sur lesquels il nous faut travailler. Jean-François Guégan l'a bien dit, il faut comprendre de façon beaucoup plus importante maintenant les interactions et dans ces systèmes complexes, trouver les moyens de prévenir ces évolutions.
Merci en tout cas à tous les deux pour votre analyse sur donc ces projections peu réjouissantes sur la santé humaine liées au réchauffement climatique à la suite de cette publication dans The Lancet. Jean-François Guégan et Jean-François Toussaint, merci beaucoup à tous les deux. Axel, un dernier mot pour dire que notre concours autour du quiz de la tête carrée est terminé. Ça y est, on a reçu tous nos dessins, toutes nos photos.
Il n'y a plus rien à gagner. Hein. Vous avez été très nombreux depuis vendredi à nous envoyer vos dessins, vos photos. Vous pouvez les voir sur la page Facebook. Restez attentifs parce que nous avons besoin de vos adresses pour vous envoyer les cahiers. Et ceux qui n'ont pas été assez rapides, ben rendez-vous en kiosque pour retrouver ce cahier de vacances avec 300 questions scientifiques, une version junior, une version adulte. Merci à tous pour votre imagination.
Voilà, donc pensez bien à nous donner vos adresses si vous nous avez joints avec vos œuvres. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, selon une enquête, un tiers des lycéens ne se protègent pas systématiquement lors d'un rapport sexuel. Ce résultat viendrait d'une mauvaise connaissance des maladies sexuellement transmissibles. Ils sont en effet 16% à penser qu'on guérit du sida. Paradoxalement, les étudiants ont une meilleure conscience du danger, mais seulement la moitié d'entre eux se protègent. L'absence de prévention mène à des solutions d'urgence. 40% des filles entre 15 et 24 ans ont déjà pris la pilule du lendemain et une lycéenne sur 10 a déjà eu recours à l'IVG. Chez le poisson, l'intelligence ne tiendrait qu'à un seul gène, alors que les chercheurs suédois s'attendaient à mettre les pieds dans un mécanisme cérébral extrêmement complexe. Ils se sont aperçus que l'expression de l'angiopoïétine, une, conditionne seulement l'intelligence et la taille du cerveau. Sur deux espèces de poissons, le guppy et le poisson zèbre. Suite à cette découverte, le rôle de ce gène sur la neurogénèse humaine est à l'étude. Jusqu'alors, elle était cantonnée chez l'homme à la formation des vaisseaux sanguins. Et puis pour finir, le réalisateur Martin Eck a réalisé un timelapse exceptionnel de l'éruption du volcan chilien Calbuco il y a deux mois. froid après 43 ans de sommeil. La montagne est depuis entrée en activité deux autres fois, provoquant l'évacuation de 4000 personnes. Le travail de Martin Heck vous montre la formation de l'imposant nuage, composé de plusieurs millions de mètres cubes de cendres. Et vous pouvez voir cette vidéo dès maintenant sur la page Facebook de La Tête au Carré.